Virginie Langeroc.
Bonjour, la Suisse retient son souffle à la veille d'une décision cruciale attendue de Washington sur les droits de douane. Donald Trump doit annoncer d'ici demain, 1er août, s'il maintient ou pas une surtaxe douanière de 31% sur les produits suisses exportés aux États-Unis. L'annonce tombera d'ici demain matin, 6 heures au plus tard. Le président américain a déjà fixé les taxes infligées à de nombreux pays, mais il maintient la pression sur la Suisse. L'incertitude est donc totale et le suspense s'intensifie à l'approche de l'échéance, comme en témoigne Nadine Gobet. Elle est directrice de la Fédération patronale et économique fribourgeoise et conseillère nationale PLR.
Les entreprises retardent des décisions. Il y a des commandes qui sont annulées, donc c'est difficile de faire des prévisions. Mais je suis à ce stade plutôt confiante, même si je n'ai pas d'informations précises.
Vous êtes confiante pour quel taux de droits de douane? 10%?
Alors, tant mieux si c'est 10%. On a vu qu'il y a eu une annonce pour les pays de l'Union européenne à 15%. Donc, si on a 10%, on pourrait se réjouir. Mais c'est difficile de faire des pronostics sur le taux. Si c'est 15%, on serait au même niveau que nos concurrents. Ce serait, le cas échéant, un moindre mal.
Nadine Gobet au micro de Romain Carupt. C'est une lourde perte, 15 milliards 300 000 francs au premier semestre de l'année. C'est ce qu'annonce ce matin la BNS, la Banque Nationale Suisse. La faute en premier lieu à ses positions en monnaie étrangère. Et c'est au deuxième trimestre que les choses se sont gâtées parce que les résultats des trois premiers mois de l'année étaient positifs, Katia Scher.
On passe du noir au rouge, presque 7 milliards de bénéfices au premier trimestre, mais un bénéfice gommé par les lourdes pertes d'environ 22 milliards d'avril à juin. Le calcul est vite fait, c'est plus de 15 milliards de francs dans le rouge pour les résultats semestriels nets. La faute au dollar, un billet vert qui s'est fortement affaibli par rapport au franc, et ces mouvements de change vont se répercuter aussi sur les placements en dollars, avec une BNS qui détient pour environ 300 milliards de titres américains. Et comme l'or détenu par la BNS est lui aussi apprécié en dollars, eh bien même l'envolée des prix du métal jaune n'a guère fait que limiter les dégâts. Mais le dollar n'est pas seul responsable. La force du franc se fait généralement sentir sur les résultats de la BNS en monnaie étrangère. Face à l'euro aussi, raison pour laquelle les pertes de change sont particulièrement lourdes, près de 44 milliards de francs sur les 6 premiers mois de l'année.
L'air est une source importante d'exposition aux particules fines de plastique et ces particules, on en respire bien plus que ce qu'on pense. Une étude française révèle des niveaux de microplastique dans l'air de nos maisons et de nos bureaux 100 fois supérieurs aux estimations précédentes. Benjamin Louise, bonjour.
Bonjour.
Ce qu'ont observé des chercheurs français, c'est une pollution invisible, omniprésente et largement sous-estimée.
Oui, leur découverte est plutôt préoccupante. Un adulte inhalerait chaque jour 68 000 microparticules de plastique. Un enfant, près de 47 000. C'est 100 fois plus que ce que l'on croyait jusqu'ici, selon cette étude de l'Université de Toulouse, publiée dans la revue PLOS ONE. Les chercheurs ont analysé l'air dans des logements, des bureaux et des voitures et ils ont trouvé des concentrations très élevées de particules PM10 issues des textiles, des meubles, des moquettes ou encore des câbles. Ces microplastiques peuvent pénétrer profondément dans les poumons, rejoindre la circulation sanguine, voire atteindre certains organes. Les auteurs de l'étude alertent aussi sur des risques pour le système hormonal et un lien possible avec certains cancers. Alors comment s'en protéger? Eh bien, il n'y a aucune solution miracle. Aérer reste le seul réflexe conseillé. Et puis ce constat, eh bien, il dépasse largement la France. En Suisse, Greenpeace a récemment détecté des microplastiques dans des crottes d'animaux sauvages jusque dans les montagnes des Grisons. La pollution plastique contamine désormais tous les milieux, même les plus éloignés. Et c'est à Genève, dès mardi prochain, que va s'ouvrir le dernier round de négociation d'un traité mondial contre la pollution plastique.
Qu'on va suivre, bien entendu, Benjamin Louis. Merci, en direct de Paris. Du sport et un test de féminité qui va bientôt être imposé aux athlètes femmes avant les mondiaux d'athlétisme qui ont lieu en septembre prochain à Tokyo. Les mesures approuvées par World Athletics vont entrer en vigueur le 1er septembre. Vos précisions, Alain Thévaux.
Oui, World Athletics, la Fédération internationale d'athlétisme imite World Boxing qui impose un test à tous ses athlètes de 18 ans et plus voulant participer à un combat sous l'égide de la Fédération internationale de boxe reconnue par le CIO. En athlétisme, les concurrentes sélectionnées pour les mondiaux de Tokyo qui auront lieu précisément du 13 au 21 septembre devront subir un test unique, donc une seule fois dans la vie, afin de déterminer de façon fiable le sexe sexe biologique. Ces tests seront supervisés par des membres dirigeants de World Athletics. Ils s'effectueront au moyen d'un prélèvement à l'intérieur de la joue ou d'une analyse sanguine pour protéger l'intégrité du sport féminin, a déclaré le président de l'instance Sébastien Coe. Je cite, « Il est très important pour un sport qui veut attirer plus de femmes pour qu'elles sachent qu'il n'y ait pas de tricherie. » En mars dernier, la Fédération internationale d'athlétisme avait déjà approuvé l'introduction d'un test de prélèvement buccal pour déterminer si une athlète est biologiquement une femme.
Alain Thévaud de notre rubrique sportive. La météo avec aujourd'hui un temps assez ensoleillé, un temps qui devient plus nuageux l'après-midi avec quelques averses parfois orageuses en montagne. Il fait un maximum de 25 degrés. Demain, le soleil sera plus discret avec quelques averses dès la fin de la matinée. Le week-end, lui, s'annonce plutôt frais et instable avec de nombreux nuages en montagne et des averses probables dès le matin.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Depuis plus de 30 ans, le pianiste Brad Meldo tisse de fascinantes histoires musicales où se croisent Bill Evans, Fauré, Bach ou les Beatles. Entouré de Félix Moser-Holm à la contrebasse et Jorge Rossi à la batterie, il sera en concert ce vendredi 1er août au Festival de Verbier, un concert que je me réjouis de partager avec vous dès 19h30 dans l'été des festivals sur RTS Espace 2 et RTS Play.
Les références, Julian Sykes.
Quatrième émission de la semaine, consacrée à un ensemble légendaire, le Quartetto Italiano. C'est parti! torrent d'énergie dans ce final du Quatuor de Ravel, quelque chose aussi de très jouissif avec ses sonorités si homogènes. Nous écoutions le Quartetto Italiano dans cet enregistrement de l'année 1965 pour Philips. À l'époque, ce disque couplant aussi le Quatuor de Debussy a reçu un accueil enthousiaste de la presse et franchement, ça n'a pas pris une ride. Comme tout quatuor, le Quartetto Italiano a mis du temps à forger une sonorité d'ensemble. Pas un son unique, mais une sonorité homogène qui reflète la somme des quatre individus. Il y a une signature qu'on peut attribuer à ce quatuor. Quelque chose d'éminemment italien dans l'élégance du phrasé, la finesse des inflexions, l'élan collectif. Il leur est arrivé de jouer en formation élargie avec d'autres musiciens, comme c'est souvent le cas pour les quatuors. On peut citer le célèbre pianiste et chef Wilhelm Furtwängler avec lequel ils ont joué le quintet en fa mineur de Brahms en 1949 au Festival de Salzbourg. Cette rencontre les a enrichis car Furtwängler, connu pour son traitement rythmique assez souple, voire imprécis, leur a apporté un souffle de liberté qu'ils n'avaient pas jusque-là ou qu'ils n'osaient peut-être pas prendre jusque-là. Malheureusement, il n'existe pas de témoignage de cette rencontre. Mais le Quartetto Italiano a enregistré ce même quintet de Brahms une trentaine d'années plus tard pour Deutsche Grammophon avec un immense pianiste, Maurizio Pollini. Évidemment, Pollini, c'est une autre esthétique que Furtwängler et cette collaboration au disque est magnifique. Écoutez le début du quatrième mouvement, très concentré, sans effet, avec un piano puissant mais pas écrasant et un quatuor merveilleusement soudé.
Thank you.
Les dernières notes enflammées de ce quintet en fa mineur de Johannes Brahms par le Quartetto Italiano et Maurizio Pollini. Un magnifique enregistrement qui date de la dernière période des Italiano en janvier 1979, juste un an avant leur dissolution. Ça a été fait à la Herkulessaal de Munich où Pollini avait l'habitude de faire ses propres disques. Et puis Dino Asciola avait remplacé à l'époque, à la partie d'alto, Piero Farulli, qui avait été victime d'une crise cardiaque en 1977. Alors on vient d'entendre Brahms, on va passer à Beethoven, auquel le Quartetto Italiano a consacré une intégrale des 16 quatuors, dont j'ai déjà commencé à parler hier. On y trouve les sonorités propres aux Italiens, cette alternance de paysages ensoleillés et de moments plus sombres, des effets de clair-obscur pour cette musique de Beethoven. D'ailleurs, le Quartetto Italiano a commencé par enregistrer les derniers quatuors, ceux qui sont considérés comme les plus difficiles, et peut-être d'ailleurs les plus difficiles de toute l'histoire du quatuor à cordes. Ces quatuors de Beethoven préfigurent les développements à venir, y compris certaines techniques d'écriture du XXe siècle. Ce qui me fait penser que la surdité a permis peut-être à Beethoven, vous le savez, il souffrait de surdité, de creuser infiniment loin dans son imaginaire. Le premier violon Paolo Borciani en parlait au journaliste Henri Jaton en janvier 1972, qui lui posait la question de la difficulté de ses œuvres et de la mémorisation pour cette musique.
Oh, je voudrais dire que les derniers quatuors de Beethoven sont la chose la plus haute qui a été écrite et je ne crois pas qu'il, peut-être je me trompe, mais je ne crois pas qu'au point de vue spirituel, il y aura aucun compositeur dans le futur qui pourrait atteindre à cette hauteur. Au point de vue spirituel, sont les choses les plus difficiles. Au point de vue mnémonique, oui, ils sont difficiles, mais pas tellement difficile. Au point de vue et style, et surtout spirituel, alors ça, je crois que ce sont les choses les plus difficiles qui ont été écrites.
Thank you. Thank you.
musique austère et dense à la fois, une musique assez douloureuse mais magnifiquement interprétée ici par le Quartetto Italiano, le premier mouvement du quatuor en la mineur opus 132 de Beethoven. Ça fait partie de ses derniers quatuors enregistrés à la fin des années 60 à la salle de musique de la Chaux-de-Fonds. On va revenir à Beethoven dans quelques instants. Mais j'aimerais qu'on fasse un détour avec Anton Webern. Le Quartetto Italiano a enregistré un disque en 1970 qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque. Personne ne s'attendait à ce qu'ils enregistrent ce répertoire-là avec tant d'expertise. Et à ce propos, on retrouve le premier violon Paolo Borciani au micro de Henri Jaton en 1972.
Est-ce que votre manière de préparer des œuvres appartenant à ce répertoire-là était différente de celle que vous employez lorsqu'il s'agit de prévoir l'exécution d'un quatuor de Haydn, de Mozart ou de Beethoven?
Oui, je crois que c'est plus difficile et c'est plus important de jouer vraiment bien la musique contemporaine que la musique ancienne. Je veux dire que Beethoven et Haydn, bien sûr, il faut les jouer très bien, mais Webern et surtout les compositeurs actuels, il faut qu'ils soient connus par le public dans la meilleure façon. Autrement, on a une vision, il se trompe, il entend des choses qui ne sont pas écrites. C'est plus difficile, ça, je veux dire. C'est plus difficile de montrer au public l'œuvre contemporaine, bien jouée, et pour les montrer dans son valeur au public. C'est plus difficile de montrer. Alors, il faut travailler plus la musique contemporaine que la musique ancienne.
Ça, mais j'ai l'impression que sur le plan instrumental, les œuvres contemporaines exigent de vous un effort quant à la justesse de l'intonation, quant à la justesse même, disons, du jeu sur les cordes du violoncello ou de l'alto, infiniment supérieure à celle qu'exige un quatuor classique.
Oui, ça, je voulais dire ça avec mes pauvres mots. Je voulais dire que l'intonation, la troisième, la cinquième et la huitième, comme l'harmonie traditionnelle, ça, tout le monde comprend, même si c'est pas tout à fait parfait comme intonation. Mais si on veut, au point de vue intonation, montrer le vrai jazz, la musique contemporaine, il faut être tellement exact qu'il faut travailler beaucoup.
le premier des cinq mouvements pour quatuor à cordes de Webern par le Quartetto Italiano. Encore un autre extrait de cette œuvre avec des sonorités incroyablement fines et aiguisées. La musique atonale est suspendue d'Anton Webern, joué par le Quartetto Italiano. Il fallait de l'audace pour jouer cette musique avec tant de poésie et un imaginaire débordant. Cet imaginaire, on va le retrouver chez Beethoven, qui réclame tout autant de concentration. Hier, je vous ai diffusé le premier mouvement du 10e quatuor, les harpes. On va reprendre l'écoute de cette œuvre au troisième mouvement. C'est un presto tumultueux, typique de Beethoven, suivi d'un final qui est tout à fait différent, beaucoup plus détendu et souriant. On retrouve nos archets du Quartetto Italiano magnifiquement coordonnés. Thank you. Beethoven, la fin du dixième quatuor, surnommé les harpes par le Quartetto Italiano. Une interprétation à la fois vitale, dense et légère, qui date de l'année 1971 à la Tour de Paix. On va se quitter sur un quatuor de jeunesse de Beethoven. Il y a une forme d'insouciance presque mozartienne dans cette musique. C'est le premier mouvement de l'opus 18 numéro 5. Court extrait du Quatuor opus 18 numéro 5 de Beethoven par le Quartetto Italiano. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier volet de cette série d'émissions consacrée à ce magnifique ensemble. On écoutera notamment du Schubert. Un grand merci à Gilles Zaman pour son assistance à la réalisation et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Vous écoutez RTS Espace 2, il est 13h, le journal de la mi